Belle journée sur France Culture. À 12h45, ce sera la grande table d'été et tout de suite, le journal.
Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Une seconde vague de la Covid hautement probable à l'automne ou l'hiver, c'est l'avertissement du Conseil scientifique qui sans surprise alerte sur la circulation du virus en France. L'institution qui conseille l'exécutif appelle à nouveau à prendre toutes les mesures nécessaires pour anticiper plutôt que subir. Détail de l'avis dans un instant. La question des masques est bien entendu importante en prévision de cette seconde vague. Explication de Tara Schlegel. Des vacances mises en pause pour Emmanuel Macron, le temps d'une visite à Toulon, placée sous le signe de la dépendance et du soutien aux professionnels du secteur de l'aide aux personnes âgées. Les auxiliaires de vie, par exemple, mobilisés tant bien que mal dès le début de la crise de la Covid, témoignage de l'un d'eux à suivre. Dans ce journal également, une nouvelle salve de chiffres qui permettent de mesurer l'impact de la crise sur l'économie. Le déficit budgétaire qui se creuse de 50 milliards d'euros en un an et surtout le montant des reports de cotisations sociales accordés par l'État aux entreprises. Qui en a bénéficié? Éclairage de Catherine Pétillon. À l'étranger, la riposte d'Israël suite à l'entrée sur le plateau du Golan d'un commando syrien pour y déposer une bombe, des représailles assumées, fait rare, qui font figure d'avertissement à Damas et l'Iran, précision de Frédéric Mettezo, et puis l'exil de Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, passé de fondateur de la démocratie à monarque éclaboussé par les scandales, son portrait signé Mathieu de Taillac. C'est un spectre qui plane au-dessus de nous et qui grandit à chaque annonce de la découverte d'un nouveau foyer épidémique, celui d'une deuxième vague qui toucherait la France. Après l'OMS hier qui annonçait qu'il n'y aura peut-être jamais de solution magique contre le coronavirus, ce matin le Conseil scientifique juge qu'une seconde vague est hautement probable à l'automne ou l'hiver. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Alors rien de très original dans cette annonce. En revanche, le Conseil scientifique met encore plus l'accent sur la préparation à ce retour en force de la Covid.
Anticiper, c'est le maître mot du rapport, car la menace d'une deuxième vague se précise. Les autorités doivent se préparer à tous les scénarios, notamment un reconfinement local possible, disent les scientifiques dans cet avis, dans certaines grandes métropoles si les contaminations progressent. Il faut aussi améliorer la gouvernance. Qui décidera de quoi si jamais les choses s'aggravent? Le rapport n'en parle pas, mais on a entendu beaucoup de critiques sur les ARS, notamment les autorités régionales de santé, qui n'ont pas toujours bien géré la crise, au moins au début. Et puis, il faut tester dès maintenant plus largement, dit encore l'avis, et donner les résultats des tests plus vite. Enfin, l'État doit financer des campagnes d'information pour que la population soit consciente des risques et utilise mieux les masques. Il faut aussi prévoir des masques gratuits pour les plus démunis.
Et à cet égard, Tara, il est intéressant de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour tenter de comprendre, par exemple, ce qui a été mal anticipé ces derniers mois dans la gestion des masques.
Oui, au-delà de l'avis du Conseil scientifique d'aujourd'hui, c'est effectivement l'une des grandes questions du moment. La commission d'enquête parlementaire a révélé que les stocks stratégiques de l'État étaient quasiment vides au début de l'épidémie. Il n'y avait que 150 millions de masques chirurgicaux et zéro masque FFP2. Sur le moment, le gouvernement s'est bien gardé de le dire. Où en est-on aujourd'hui? L'avocat Fabrice Divisio, qui défend des soignants qui se sont fait contaminer par la Covid-19, a posé la question aux autorités. Seule la Direction Générale de la Santé lui a pour l'instant répondu. Or, la DGS dit avoir procédé à 2 commandes de masques mi-mars pour 38 millions de masques FFP2 et 32 millions de masques chirurgicaux. Et rien depuis d'officiel. On est très loin du milliard avancé à un moment par les autorités. Rien non plus du côté de Santé publique France, qui gère pourtant ces stocks, mais qui n'a pas répondu à l'avocat. Fabrice Divisio a donc mis en demeure les hôpitaux de lui dire où ils en sont.
Le but de la mise en demeure, c'est à un moment donné de dire, écoutez, les bons de commande sont des documents administratifs communicables. Je ne vous demande pas de faveur. Je vous demande de bien vouloir me couvrir d'un droit qui est le mien à la communication d'un document administratif. Et d'ailleurs, l'État a satisfait à ma demande à ce titre. Et donc, justifiez-moi que vous avez commandé suffisamment de masques. Donnez-moi les montants, donnez-moi le nombre en tout cas, donnez-moi la qualité de ces masques. Dites-moi effectivement que tout va bien. Et mon but, il n'est absolument pas de vous mettre en défaut, mais juste de m'assurer que les soignants sont protégés.
Car depuis 2013, c'est en effet aux employeurs publics et privés de protéger leurs salariés et leurs agents. Il y a eu un changement de doctrine. C'est donc aux hôpitaux de commander notamment des masques FFP2. Mais pour l'instant, nul ne sait encore où ils en sont de leur stock actuel.
Tara Schlegel, merci. Localement, on renforce un peu plus le port du masque en extérieur. Le préfet de Haute-Garonne vient de le rendre obligatoire dans certains lieux publics, à compter de demain dans les rues de l'hypercentre de Toulouse et tous les marchés ouverts du département. La préfecture de Haute-Savoie également dans les lieux de plein air très fréquentés. La question de la gratuité prend d'ailleurs de plus en plus de place dans le débat public, notamment pour les ménages les plus modestes. De nombreuses voix à gauche la demandent. Valérie Rabault, ce matin, chez nos confrères de France Info, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, propose, elle, un quota de masques gratuits distribués à chaque citoyen, argumentant que si obligation il y a, il ne faut pas que certains renoncent à en porter parce qu'ils n'ont pas le budget. Il y a les vacances apprenantes des écoliers français et les vacances entreprenantes sur le terrain, pourrait-on dire, de l'exécutif, sur le terrain médiatique, assurément en tout cas. Au lendemain du déplacement de Jean Castex et Gérald Darmanin dans le Nord, Emmanuel Macron est sorti du fort de Brégançon ce matin pour une visite à Toulon, rencontre avec une dame âgée chez elle, avec des auxiliaires de vie à domicile et avec des responsables d'associations. Il a rendu hommage aux professionnels qui permettent aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Des professionnels qui ont connu des conditions de travail difficiles pendant le confinement, comme Jean-Pierre Ramos, il est auxiliaire de vie à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine.
Un peu stressé parce qu'on ne savait pas où on allait, on n'avait pas de matériel, pas de masque. Heureusement qu'il y avait une certaine solidarité à Sceaux, puisque c'est à Sceaux que je travaille. Par relation, les médecins qui m'ont appelé en me disant « Jean-Pierre, est-ce que tu as besoin de masque? Je peux t'en dépanner. » J'avais gardé auparavant par d'autres épidémies. Même le coiffeur de Sceaux, un garçon super gentil qui m'appelle « Jean-Pierre, tu as besoin de masque? Il m'en reste encore quelques-uns. » C'est comme ça que je me suis fait un petit stock de masques dès le départ. Donc on a fait face, on a bricolé quoi. Ma crainte première, c'était surtout qu'on puisse les garder à la maison, qu'on puisse pas les hospitaliser, qu'ils tombent pas malades, parce que ça c'était aussi mon gros stress, c'est que malgré toutes les précautions qu'on prenait, j'avais peur de les contaminer, puisque je sortais, j'allais leur faire les courses. Ils sortaient pas, donc ça, je faisais les courses. Tout ce qui était extérieur, en fait j'étais le seul lien de l'extérieur.
Jean-Pierre Ramos au micro de Maxime Fayolle à l'issue de son déplacement. Dans quelques minutes, le président de la République doit faire des annonces pour le secteur. Nous y reviendrons dans le journal de 18h. Le grand âge et l'autonomie, ce sera l'un des chantiers de la rentrée pour le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur au chevet de ses policiers victimes de violences. La place Beauvau a mis en place hier un numéro vert et une adresse e-mail, un dispositif d'assistance à destination des agents et de leurs familles victimes d'agressions physiques ou verbales. Les syndicats de police saluent cette aide qui constitue une forme de reconnaissance du problème. L'année dernière, le ministère a comptabilisé 50 000 faits d'agressions, menaces, outrages ou injures à l'encontre de policiers. Sans surprise, c'était l'une des conséquences attendues de la crise de la Covid. Le déficit budgétaire de l'État se creuse. Il s'est établi fin juin à près de moins 125 milliards d'euros, selon les données publiées ce matin par le ministère de l'Action et des Comptes Publics. C'est quasiment 50 milliards de plus que l'année dernière à la même période. Une détérioration liée en partie au financement des mesures de soutien à l'économie contre le coronavirus et aux répercussions de la crise sur les recettes fiscales. Autre donnée dévoilée ce matin, celle-ci par l'URSSAF, le montant des reports de cotisations sociales accordés aux entreprises et aux travailleurs indépendants en France depuis mars. Elle s'élève à 21,1 milliards d'euros. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Alors à qui a bénéficié ce dispositif d'aide ?
Il y en a côté à plus de 2 millions d'indépendants à hauteur de 6,9 milliards d'euros et de l'autre à 700 000 entreprises. Pour elles, le montant cumulé des reports de cotisations s'élève à 14,2 milliards d'euros. Ces dispositions d'accompagnement instaurées au début de la crise représentent une aide pour les entreprises mais aussi une baisse de ressources importante pour notre système de protection sociale, c'est-à-dire assurance chômage, maladie, retraite. Rappelons que c'est à son financement que servent ces cotisations. Ce dispositif d'aide se réduit donc peu à peu. Depuis le mois de juillet, les employeurs doivent payer les cotisations sociales courantes. En cas de difficultés économiques persistantes, ils peuvent néanmoins demander un report, mais uniquement des cotisations patronales cette fois. Exception faite de Mayotte et de la Guyane, où les entreprises en grande difficulté restent éligibles à un report complet. Pour les travailleurs indépendants, c'est en septembre que se fera le retour à la normale des paiements. Voilà côté recouvrement des cotisations. Pour les remboursements de ces sommes, puisqu'il ne s'agit que d'un report, les PME et TPE pourront les étaler jusqu'à 36 mois. C'est ce que permet la troisième loi de finances rectificative votée en juillet. Le calendrier sera négocié pour chaque entreprise selon sa situation. Les travailleurs indépendants, quant à eux, recevront ce mois-ci un échéancier.
Catherine Pétillon, merci. Plus d'une vingtaine d'entraîneurs de danse sur glace seraient mis en cause dans des affaires de violences sexuelles, physiques ou verbales. C'est ce qu'indique le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ce midi, en se basant sur le rapport de l'Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche. L'organisme estime que l'Organisation fédérale du patinage artistique a favorisé une forme d'omerta, que des faits peuvent relever du pénal, et indique qu'il a transmis à son rapport au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. C'est un fait rare de la part d'Israël. L'État hébreu revendique une série de frappes aériennes qui ont visé plusieurs points de la Syrie ces dernières 24 heures. L'armée explique avoir riposté après qu'un commando de 4 hommes basé en Syrie a tenté de poser une bombe dans le Golan à la frontière avec Israël. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces frappes ont fait 15 morts. Mais ce choix de communication de la part des autorités israéliennes a un but. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Ce but, c'est d'envoyer un message très clair au régime syrien et plus encore à l'Iran.
Frapper et le dire. Par communiqué, l'armée israélienne précise qu'elle a visé l'armée syrienne et le ministre israélien de la Défense met en garde le régime de Damas. Mais en réalité, Israël s'adresse clairement à l'Iran. L'Iran, c'est le soutien numéro un de Bachar el-Assad. Avec ses soldats, son matériel et ses financements, Téhéran l'a aidé à écraser les rebelles et s'est installé durablement en Syrie. Mais pour Israël, pas question d'avoir une tête de pont iranienne à ses portes. Voilà pourquoi il n'hésite pas à frapper à sa frontière et plus en profondeur, autour de Damas et même aux portes de l'Irak. Ces derniers jours, la situation s'est aussi tendue entre Israël et le Hezbollah libanais, lui aussi très lié à l'Iran. Pour Benjamin Netanyahou, l'Iran est une obsession depuis des années. Au printemps, un membre du Conseil de sécurité nationale israélien nous confiait que la lutte commune contre le coronavirus allait peut-être rapprocher Israël et certains de ses voisins, sauf l'Iran, précisait-il. Au contraire, il nous disait qu'Israël comptait bien profiter de l'affaiblissement de Téhéran à cause de l'épidémie et des sanctions américaines. Profiter, c'est-à-dire frapper si nécessaire et le faire savoir.
Frédéric Mettezo, merci. La réaction de Pékin à la décision de la France d'hier. Le Quai d'Orsay a annoncé suspendre la ratification de son accord d'extradition avec Hong Kong, une représaille qui ne dit pas son nom, en opposition à la loi de sécurité nationale imposée par la Chine à l'ancienne colonie britannique. Pékin considère qu'il s'agit là d'une ingérence de la France dans les affaires intérieures de la Chine. C'est un coup de tonnerre qui a touché l'Espagne hier soir, le départ à l'étranger de l'ex-roi Juan Carlos, alors qu'il est visé par une enquête sur des soupçons de corruption. Ce n'est pas le premier scandale à le toucher. Juan Carlos avait déjà abdiqué en 2014 en faveur de son fils suite à l'affaire des luxueux safaris au Botswana, pendant que ses sujets souffraient de la récession. Concrètement, en l'espace de 10 ans, la popularité de celui qui était considéré comme l'un des pères de la démocratie espagnole n'a fait que chuter à Madrid, les précisions de Mathieu de Taillac.
Comment faire le tri? La décision de l'exil, annoncée par surprise une fois que Juan Carlos était déjà parti, met bien sûr la lumière sur la part d'ombre de Juan Carlos. L'ex-souverain a beau faire dire à son avocat qu'il répondra à toute sollicitation de la justice espagnole, il peine à corriger cette impression qu'il fuit son pays, où, il le reconnaît lui-même dans sa lettre, sa présence encombrante entraverait le travail de son fils Felipe VI. Bien sûr, c'est ce qui prime pour une partie de la population. Le chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, n'est pas hors sujet quand il dénonce une fuite indigne, mais en même temps, le gouvernement, quand il dit respecter la décision de l'ancien souverain, le centre et la droite, quand il remercie le roi de son œuvre, tout cela aussi reflète un sentiment encore présent dans une large part de la société espagnole. Juan Carlos, né dans l'exil, éduqué dans le cadre fixé par Franco, désigné par ce dernier pour lui succéder, Juan Carlos reste aussi celui qui renonça à être davantage qu'un roi figuratif, un super VRP. Juan Carlos, surtout, garde pour lui son discours en uniforme de chef des armées qui, on continue de le dire, empêcha le coup d'état du colonel Tejero d'aboutir en 1981. En prenant, comme tant d'autres rois d'Espagne avant lui, le chemin de l'exil, Juan Carlos se rapproche un peu plus des livres d'histoire dont on ignore encore comment ils traiteront sa figure.
Mathieu de Taillac à Madrid. Une disparition pour terminer, celle du musicien et comédien français Lionel Rochman.
La maison qui m'a vu naître n'était pas au nom. Une pile de fenêtres, un cul de béton.
Lionel Rochman, ancien résistant, il crée dans les années 60 les Outnanise, les scènes ouvertes hebdomadaires à Paris qui donnent naissance au mouvement folk francophone. C'est là que débutent notamment Alan Stivell, Malik Horn ou encore Dick Angarn. Son fils, le pianiste de jazz Manuel Rochman, vient d'annoncer son décès. Lionel Rochman est mort jeudi dernier à 92 ans. Le temps cet après-midi sera assez semblable à ce matin, à savoir une perturbation toujours présente sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, le long de la frontière suisse, avec des averses, un peu de grisaille de la région parisienne aux Hauts-de-France, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Partout ailleurs, il y aura du soleil. Les températures évolueront entre 19 et 30 degrés, 19 à Brest et Cherbourg, 23 à Lille et Metz, 24 à Paris et Lyon, 26 à Bordeaux et Nice et 29 à Montpellier. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Merci à lui. Il est 12h45 sur France Culture. Tout de suite, la grande table d'été présentée par Maëlys Bessery.